Hey, la voie est libre.
Libre comme l'air.
Liberté conditionnelle.
Liberté au conditionnel.
Vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Libre office ou libre service.
Le libre arbitre.
Bon allez, entrée libre.
On est en roue libre.
Il est interdit d'interdire.
Il est interdit
d'interdire.
Il est interdit.
Il est interdit.
Il est interdit d'interdire.
Il est interdit d'interdire.
Liberté.
Libertad.
Freiheit.
Bonjour Pierre.
Bonjour tout le monde.
Ouais, salut Vincent et bienvenue à nos auditeurs pour cette émission spéciale Liberté. Elle se déroulera donc en public dans le lycée Frédéric Bazy et sur une radio libre, donc radio associative. Alors installez-vous confortablement.
Et prenez quelques libertés avec le volume de votre poste radio.
Et oui, car c'est parti pour un grand moment radiophonique.
Et tout de suite, on accueille nos collègues Benjamin et Sandro du BTS Viticulture Onologie, ainsi que Tilia et Élise, organisatrices de cette journée. La parole est à vous.
Élise et Tilia, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au lycée Frédéric Bazile? Pourquoi autant de monde?
Bonjour. Aujourd'hui, nous organisons une journée qui s'appelle « Comment réenchanter les esprits après le 13 novembre ?» dans le cadre d'un PIC, projet d'initiative et de communication. Tout ça en cours de SC, donc cours de socioculturel en BTS technico-commercial.
Comment vous est venue cette idée?
Alors bonjour, donc en fait cette idée nous est venue donc après les attentats du 13 novembre, donc on savait qu'on avait un projet à faire dans cette matière et on ne savait pas encore quoi, et ça a été assez révélateur pour nous par rapport à ce qui s'est passé. On a voulu faire un travail, on a voulu libérer les non-dits et faire ça au travers de 4 ateliers sur 4 formes artistiques pour que ça convienne
à tous,
voilà.
Est-ce que vous avez eu des difficultés à organiser cette journée, ce projet?
Oui, parce qu'il y a plusieurs acteurs à contacter au niveau de l'administration, les partenaires, les papiers à avoir, etc. Mais c'est intéressant, ça nous forme aussi à créer des projets et à être autonome aussi.
Comment se déroule cette magnifique journée?
Alors du coup, ça s'est fait, on a commencé ce matin, donc dans les 4 ateliers, donc l'atelier radio donc, qui s'est déroulé donc, dans les amphis. Et puis après, on a réalisé une exposition au travers de photos, d'expressions écrites et de peintures pour allier un peu toutes les formes artistiques comme c'était prévu.
D'accord. Et vous particulièrement, est-ce que vous pensez être libre?
Oui. Je pense être vraiment libre et malgré ce qui s'est passé, oui, je suis libre.
Merci.
Alors depuis tout à l'heure, on parle de liberté. Mais c'est quoi la liberté vraiment? Eh bien, c'est ça.
Que représente la liberté pour toi?
La liberté pour moi, c'est de pouvoir m'exprimer sans que quelqu'un s'y oppose et du temps que ça nuit pas à autrui.
Liberté, c'est faire ce que l'on veut dans certaines limites.
D'être avec ses amis, de pouvoir parler de certaines choses, de sujets.
C'est une valeur indispensable et pour moi, c'est aussi une des valeurs de la République française. C'est quelque chose auquel on est attaché.
C'est un droit que tous les hommes ont et qui est important.
Pouvoir être libre de faire ce que l'on veut selon nos idées et nos convictions. Et pouvoir dire ce qu'on veut aussi.
Ouais, c'est pouvoir exercer ses droits sans empêcher justement les autres d'exercer leurs droits eux-mêmes.
C'est comme être atrophié de nous-mêmes quand on n'est pas libre.
Alors Guillaume et Adrien nous ont rejoints. Des réactions suite à ce micro-couloir réalisé dans l'enceinte du lycée?
Oui, bien sûr. Alors nous, on a été surpris, agréablement surpris des réponses qu'ont données, que ce soit les professeurs, les surveillants, les étudiants, les lycéens. Ils nous ont donné des réponses assez surprenantes et assez élaborées. Et c'est jamais simple d'être interviewé sur une question aussi délicate que la liberté.
Oui, et surtout, c'était intéressant aussi de voir les différentes tranches d'âge. On a vu des élèves de seconde, première, terminale, de BTS, et puis on a vu aussi des adultes. Et en fait, c'était intéressant de comparer les réponses qu'ils nous donnaient.
Ouais, merci les gars, je trouve ça super intéressant, comme vous dites, là, vous avez tout à fait raison. Moi, je vous propose d'écouter Sandro, là, qui a fait un travail assez intéressant pour développer qu'est-ce que c'est la liberté. Sandro, je te laisse en parler.
Tout à fait.
La liberté pour moi, c'est quoi? La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de se déplacer. Mais pour moi, la liberté, c'est seulement un sentiment. On n'est pas réellement libre. Mais de petites choses de la vie font qu'on se sent libre. Pour ma part, lorsque j'ai eu mon premier appartement seul sur Montpellier, j'ai ressenti ce sentiment de liberté, car je n'étais plus limité dans mes choix par l'autorité parentale. Pareil quand j'ai eu mon permis, ça m'a donné une sensation de liberté, car je pouvais me déplacer seul, sans avoir besoin que quelqu'un m'amène quelque part ou vienne me chercher. Seulement, on n'est jamais totalement libre, car nos choix sont restreints par les règles de vie et les lois. Et il faut avouer qu'une liberté totale serait impossible à vivre. Sinon, ce serait le chaos et l'anarchie dans la société. Mais je pense que l'on peut se sentir libre si on est en osmose avec les règles de la société. Si elles conviennent à notre mode de vie et de pensée, je suppose que l'on peut se sentir libre. Personnellement, je ne suis pas en accord complet avec ces règles. Je ne me sens donc pas totalement libre. Certaines deviennent de plus en plus strictes, comme celle de la sécurité routière. Pour résumer, il y a une citation de Sartre qui peut vous donner à réfléchir. La liberté n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut.
Merci Sandro. Donc maintenant, on va accueillir sur le plateau Jules Panetier, donc rédacteur en chef du journal Le Point.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, ça va bien.
Donc Le Point est une association qui a été créée en 2013. C'est un journal participatif et indépendant. Et donc, pourquoi avez-vous fait ce choix d'un journal participatif et indépendant ?
On a voulu faire un mensuel participatif et indépendant car on en avait marre de voir pulluler des journaux poubelles toute la journée à Montpellier, comme 20 minutes, Direct Matin, mais aussi Le Midi Libre, qui sont largement financés par la publicité, par les subventions, et dont les contenus sont exactement les mêmes au fil des numéros. Donc nous avons voulu faire une presse populaire.
D'accord. Et donc du coup, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre journal ?
Alors, donc, c'est un mensuel, indépendant, alternatif et participatif. Indépendant, car nous refusons toute subvention et nous refusons toute publicité. Nous sommes totalement maîtres de notre ligne éditoriale. Nous sommes alternatifs, car nous combattons les médias dominants. Nous les combattons par le choix de nos sujets et nous développons nos propres sujets. Nous par exemple, que ce soit sur les manifestations en ce moment sur les lois du travail, sur des sujets internationaux, il y a beaucoup de tabous qu'il est impossible de dire dans les médias dominants. Donc nous le faisons, c'est pour ça que nous sommes alternatifs. Et nous sommes participatifs car tout le monde peut écrire dans ce journal. Et que nous investissons la rue, nous faisons souvent des conférences, des manifestations, des concerts. Et c'est un mensuel tiré à 3000 exemplaires à prix libre.
D'accord. Et donc, à quel public est-il adressé ?
À tous les publics. Nous le vendons dans la rue. Donc, nous brassons un public assez large, même si c'est quand même un journal qui, à la base, est né dans un milieu étudiant. Donc, nous avons plus de facilité à toucher les étudiants, mais nous espérons avoir une audience large.
D'accord. Et comment s'organise la direction d'un journal comme Le Point ?
Alors nous avons un comité de rédaction, nous décidons des articles que nous voulons avoir pour le prochain numéro, nous organisons des conférences, ça se passe relativement naturellement, chacun son rôle, moi je m'occupe plus de la rédaction des articles, quelqu'un qui s'occupe plus de la maquette, d'autres plus de la distribution.
D'accord. Et quelle marge de liberté avez-vous dans votre journal ?
Comme je vous l'ai dit précédemment, notre marge de liberté est assez grande, à savoir que nous n'avons pas de subvention, pas de publicité, donc nous sommes vraiment maîtres de ce que nous disons. S'il faut injurier un personnage public qui mérite de l'être, nous pouvons le faire. S'il faut parler, je ne sais pas, par exemple, du conflit israélo-palestinien en dehors des coups de ceux des médias traditionnels, nous pouvons le faire. Si nous voulons appeler à une grève générale ou à une manifestation, nous pouvons le faire. On a une marge de manœuvre très large.
D'accord, merci.
Donc Jules Panetier, vous êtes donc le rédacteur en chef de la revue. Dans l'édito du dernier journal, vous avez voulu montrer votre indignation sur les sortes réservées aux migrants arrivant en France et en Europe, non ? Pour vous, quelle est vraiment la position du gouvernement concernant l'immigration, les sortes des migrants et leur liberté dans tout ça ?
Alors déjà, il y a le discours actuel des politiques et des médias dominants, et il est hypocrite au plus haut point. C'est-à-dire qu'ils font tout pour nous faire croire qu'ils appellent ça des vagues migratoires. Une vague, ça ne veut rien dire. Une vague, c'est une catastrophe naturelle. Donc ils font passer les mouvements migratoires comme des catastrophes naturelles qui étaient absolument imprévisibles, mais c'est totalement faux. On a bombardé la Syrie, on a détruit la Libye, qu'on ne s'étonne pas maintenant de voir des migrants arriver chez nous. nous détruisons des pays pour accaparer les ressources de ces pays-là, et ensuite nous faisons venir exprès des migrants pour qu'ils servent de main-d'œuvre corvéable et de main-d'œuvre à bas marché, à bon prix, en France. Donc le discours des gouvernements est totalement hypocrite. Ils n'en ont rien à faire du sort des migrants. Les 10 000 morts migrants dans la Méditerranée ces dernières années sont le cadet de leurs soucis. Et on le voit bien quand ils insistent sur le rôle des passeurs. Je n'ai aucune sympathie pour les passeurs, mais c'est scandaleux de pointer du doigt les passeurs alors que ce n'est que l'offre qui permet d'acheminer les migrants et que nos gouvernements sont en train de créer la demande. Donc le discours actuel sur les migrations est totalement hypocrite.
Mais vous pensez que c'est vraiment l'État qui tire les ficelles derrière tout ça ?
Alors il ne s'agit pas d'avoir une vision complotiste des choses, mais d'essayer d'analyser les stratégies d'un système en place qui s'appelle le capitalisme et de leurs représentants, les politiques. Et effectivement, le capitalisme a besoin d'avoir des migrants à bas prix pour sortir nos poubelles, pour aller travailler dans les chantiers. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Et ce sont des cyniques. Les petites larmes qu'ils lâchent quelquefois sur le sort des migrants est totalement hypocrite. Ils réfléchissent en termes de besoins de main-d'œuvre.
Merci beaucoup, Jules. Je peux vous appeler Jules ?
Oui.
Pour revenir sur le thème de la liberté, dans le dernier journal, un article parle de l'état d'urgence suite aux attentats du 13 novembre. Dans cet article, vous dénoncez en quelque sorte les restrictions de l'État sur les libertés des citoyens. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Alors, c'est un article qui est rédigé par Céline Coupard, qui est membre du syndicat des avocats de France, qui est un syndicat historiquement communiste. Et on dénonce l'état d'urgence comme étant une régression sans précédent des droits sociaux en France. Les attentats n'y sont absolument pour rien. C'est souvent les gouvernements nous présentent des solutions urgentes alors qu'elles nourrissent pourtant un projet mûri de longue date. Donc l'état d'urgence, ça fait longtemps que c'est dans les tiroirs. Les attentats étaient le prétexte parfait. Et je ne vais pas refaire l'intégralité des mesures que permettent l'état d'urgence, mais on peut tout de même signaler le fait que désormais, les perquisitions administratives peuvent se prendre sans accord judiciaire. Donc ça concerne énormément de militants. C'est-à-dire que y a la police peut rentrer chez vous, défoncer vos portes, saccager tout. L'assurance, vous la mettez dans le dos, bien évidemment. Et ceci sans aucun contrôle judiciaire. Parmi une autre mesure assez hallucinante, il y a le fait que maintenant, il y a une retenue administrative. À savoir qu'avant une manifestation, ou même n'importe quand, un policier peut venir vous voir, vous mettre 4 heures en retenue administrative au commissariat sans qu'un procureur ne soit au courant. C'est-à-dire que c'est vraiment une retenue totalement arbitraire. On a un dernier exemple, je ne vais pas toutes les refaire, on a également des IMC catchers, c'est des petites boîtes qui tiennent dans un sac à dos que vous mettez dans un stade de foot et toutes les personnes présentes, vous pouvez capter leur numéro de téléphone, les emails qu'ils ont sur leur téléphone, etc. etc. Ce que les Américains ont fait avec le Patriot Act, nous sommes en train de le vivre actuellement en France. Et vraiment, dernier exemple, sur la police, on légitime de plus en plus des armes militaires donnés aux policiers. Ça va s'aggraver avec l'état d'urgence. Et il faut rappeler que depuis 2007, il y a 40 blessés graves qui ont été mutilés par la police avec les flashballs. Donc, et ça va s'empirer avec l'état d'urgence.
Vous qualifierez alors l'état d'urgence quelque part d'absurde ?
Il n'est pas absurde d'un point de vue éthique, oui, bien sûr. Mais de leur point de vue, il n'est absolument pas absurde. De leur point de vue, il est très, très efficace. Pour eux, c'est vraiment un outil très puissant de contrôle social et de répression des militants. À savoir que si un militant, par exemple, c'est arrivé sur la COP21, certains militants étaient à la pointe du combat sur le squat, sur les questions des squats ou sur la question écologique. Ces militants-là ont été assignés à résidence. Donc concrètement, ils ne pouvaient plus animer les réunions et ça a été une perte très dure pour le mouvement social. Donc du point de vue du gouvernement, l'état d'urgence est très efficace et c'est pour ça qu'il faut le combattre avec la plus grande force.
Très bien, merci beaucoup Jules.
Merci à vous.
Merci Jules, merci les gars. Et maintenant, c'est d'état en musique avec I'm Free des Rolling Stones.
Yeah.
Et voilà la fin de cette belle chanson des Rolling Stones, hein, une chanson qui est quand même pleine de sens hein, à l'heure actuelle dans ce contexte.
Alors avec l'équipe, on s'est beaucoup interrogé sur la place de la liberté dans nos vies, surtout après les attentats du 13 novembre 2015 qui nous ont tous vraiment touchés, et la mise en place de l'état d'urgence.
Ça nous aspire quand même à une question, on a interrogé des gens, est-ce qu'ils sont plus pour la liberté ou plus pour la sécurité hein. On a entendu le témoignage de Jules tout à l'heure. Donc on vous laisse écouter ce micro-couloir qu'on a fait.
Entre liberté et sécurité, tu choisirais quoi ?
La liberté, mais je ne poserais pas la question en ce sens-là, parce que ce n'est pas forcément antinomique aussi. Il ne faut pas que le trop plein de... Enfin, chercher trop de sécurité vienne annihiler la liberté, parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France.
Ah, moi je choisirais la liberté, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en sécurité.
Je préfère être en sécurité dans un pays pas libre, plutôt que... être libre dans un pays où bah, où il n'y a pas de sécurité.
Je pense qu'on peut allier les deux. On peut être en sécurité en laissant la porte ouverte.
Eh bien, ça dépend. Parce que si notre... Parce que la sécurité peut nous empêcher d'être libre et notre liberté peut nous empêcher d'être en sécurité. Donc, je pense que je dirais liberté.
Liberté. Parce que je préfère risquer un petit peu et garder ma liberté que la perdre et du coup, être en sécurité.
Un homme qui troque sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre.
Sylvie ou Benjamin, c'est à vous. Liberté ou sécurité ?
Moi, je choisirais toujours la liberté. Et comme tout le monde qui a déjà parlé, comme l'intervieweur a déjà parlé, moi, je pense que tout le monde qui choisit la sécurité en détriment de liberté, il mérite ni l'un ni l'autre.
Pour ma part, par rapport à toutes les personnes du micro-couloir, je pense choisir également la liberté et la sécurité, faire un 50-50, parce que liberté, ça serait arriver à l'anarchie, s'il y en a trop, et sécurité, il n'y a plus de liberté, donc autant vivre avec un peu de liberté et un peu de sécurité pour vivre pleinement sa vie.
Ok, merci. Alors, nous, du coup, là, on va quand même se prêter à un petit jeu, on va mettre en scène l'accusation, en fait, de la liberté, pour savoir si vraiment la liberté a une place importante et si elle mérite d'être dans notre société.
Nous sommes aujourd'hui réunis pour traiter du cas de la liberté. Le procureur Etchebest a déposé plainte contre la liberté en ayant pour motif la liberté et la cause du désordre régnant en France. La peine encourue est un emprisonnement à vie. Liberté, levez-vous et défendez votre cause. Que plaidez-vous ?
Je plaide non coupable.
Procureur Etchebest, je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le juge. Alors, madame la liberté, comment pouvez-vous plaider non coupable ? Vous avez quand même quelque chose à m'expliquer ? Comment un pays aussi flambant que la France, aussi riche et puissant, a-t-il pu devenir une similable province d'un État où le vandalisme et l'argent sont rois ? Eh bien, je vais vous répondre. C'est à cause de vous ? Vous ? Et vous seul, qui avez pris les avocats des plus affluents lors des siècles des Lumières, pour vous imposer comme l'allégorie de la réussite d'un modèle qui aujourd'hui tend à l'échec. Vous n'êtes rien de plus qu'une figure de rêve, mise sur un piédestal, qui laisse entrer les terrifiants visages de Lucifer, d'Hadès ou de Satan, de l'anarchie et du terrorisme. Je vous propose, monsieur le juge, d'écouter le témoignage de monsieur Jean-Michel Gignac, qui a été témoin des ravages de la liberté sur notre société.
Monsieur Gignac, nous vous écoutons.
Bonjour. Un de mes proches est mort, c'était mon frère, lors des attentats du 13 novembre au Bataclan. À cause de cette liberté, la liberté a été cause de mal et de destruction lors des attentats. Il faut limiter cette liberté, qui laisse faire aux gens ce qu'ils veulent, même si cela va porter atteinte à une autre personne. La liberté a laissé apparaître la mort des Français. Prenons plutôt la sécurité qui donnera au peuple français la paix qu'ils attendent afin que dans notre pays, tout le monde puisse vivre, même mon frère. Ne laissons plus cette liberté régner.
Merci monsieur Gignac, vous pouvez vous asseoir. Maître Splinter, c'est à vous, vous pouvez défendre l'accusé.
Merci monsieur le juge. Alors oui, effectivement, l'homme peut se sentir quelque part étouffé dans des circonstances dont il se considère prisonnier. Alors il en veut aux institutions, à l'administration, aux hommes qui lui semblent être la cause. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les libertés ? Être libre, c'est avant tout sortir du sentiment d'étroitesse, dans lequel nous nous trouvons pris, et qui montre le premier argument de la liberté, qui est la vie.
Enfin, monsieur le juge, réagissez.
S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai ici un témoin, monsieur Jean-Claude Heisenberg, rescapé d'un camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Heisenberg, on vous écoute.
Bonjour à tous. Alors moi, je suis né dans un monde avec des libertés restreintes. Vous savez, je suis juif. Et à cette époque-là, les juifs n'étaient pas libres. Ils étaient des bêtes, ou du moins considérés comme tels. Nous n'avions pas la liberté de se déplacer, de parler, ni même de penser. Et par-dessus tout, notre liberté de vivre nous avait été retirée. Cette liberté à laquelle tout le monde a le droit pour être heureux. À cette époque, exercer sa liberté, c'était mourir. Alors je vous en prie, vivez libre, vivez heureux.
Merci monsieur Heisenberg. Maître Splinter, à vous.
Comme l'a dit notre premier témoin, la liberté est sous toutes ses formes une chose constamment évolutive et remise en question. Mais cela pour le bien-être de l'homme et pour sa faculté à pouvoir atteindre son ultime objectif, son but, sans pour autant nuire à celui d'autrui. Le libre arbitre laisse à l'être humain une force spéciale qui, au-delà de lui permettre de déterminer son but, lui offre la possibilité de se voir libre par-delà les frontières. C'est à cela que j'appelle mon deuxième témoin, monsieur Liebert, habitant de la Corée du Nord.
D'accord, mais bonjour. Premièrement, je veux corriger mon avocat. Je fais partie en fait de la Chambre des commerces extérieurs de Corée du Nord. Je me suis retourné de Corée du Nord ce matin. Là, c'est horrible. Il n'y a pas des attentats, mais c'est vrai, il n'y a pas de vie non plus. C'est dur d'être levé à 6 heures du matin pour participer à la fête narcissiste intoxiquée par l'image de Kim Jong-un. Ou d'être condamné sans avoir un procès où tu peux te défendre. Les gens sont toujours pressés et surveillés par un État omniprésent et puissant qui dirige la vie de ses habitants en contrôlant même leur vie privée. Pour ça, moi, je soutiens l'accusé. Je suis pour la liberté de la liberté.
Nous n'avons qu'un seul mot, monsieur le juge. Sauvons la liberté.
Merci, monsieur Berthe. Merci, maître Splinter. Monsieur le procureur, c'est à vous.
Merci, monsieur le juge. Moi, je voudrais quand même apporter une réflexion à ce débat. Parce que finalement, on prône la liberté, finalement, le libre arbitre de chacun. Mais pouvons-nous vraiment vivre en société avec une liberté extrême? L'anarchie est-elle la solution? J'ai avec moi un exemple, un chef d'entreprise. Aujourd'hui, son entreprise est réussie. Croyez-vous vraiment que chaque employé peut faire ce qu'il veut n'importe quand? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, car aujourd'hui, la réussite, c'est l'ordre, la discipline. Laissez-moi vous présenter monsieur Maury, chef d'entreprise, comme je l'ai annoncé.
Monsieur Maury, c'est à vous.
Merci. Alors, comme l'a dit monsieur le procureur, je suis un grand chef d'entreprise d'une multinationale et je sais que la liberté, c'est un leurre. Dans mon entreprise, aucune liberté pour les employés. Que ce soit au niveau des pauses, les pauses, c'est 1 heure le midi et c'est tout. Pas de pause dans la journée. Travail le samedi, peu de rémunération, pas de femmes dans l'entreprise, bien sûr, car pas assez productive. Tout ça réuni, ça fait plus de production et donc plus de revenus. Pour conclure, un contrôle permanent des employés et une absence de liberté favorisent la croissance de mon entreprise et enrichissent mes actionnaires et surtout contribuent à l'essor économique de l'État.
Merci monsieur Maury. Accusé, c'est à vous.
Je rejette les accusations qui sont faites à mon égard. Je suis une vieille dame et je suis née en même temps que l'humanité. On a essayé de me brider, mais on s'est toujours rendu compte qu'on avait toujours besoin de moi. Si des hommes commettent des atrocités, c'est leur faute et pas la mienne. Je suis de bonne foi car je laisse aux hommes le choix d'agir ou de ne pas agir. Beaucoup d'hommes et de femmes ont combattu pour moi, chanté, manifesté, m'ont fait des déclarations, des révolutions, ont cassé des murs. Et je tenais à dire que sans moi, le monde serait triste, sombre et noir, et que grâce à moi, il est ouvert, tolérant et beau.
Merci, Madame la Liberté. La séance est levée. On vous laisse délibérer.
Alors, chers auditeurs, allez-vous condamner la liberté? Allez-vous plutôt la sauver? On attend vos réponses et surtout vos questions sur le hashtag Jugement de la Liberté.
Et c'est parti pour une pause musicale avec Aretha Franklin et la chanson Think.
belle chanson hein, des années 68 et qui montre hein, tout le mouvement contestataire et le mouvement humaniste qu'il y avait à cette époque. Hein. Alors, on va parler avec toi, Anne. Anne, on t'a pas beaucoup entendu parler sur la liberté. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de cette liberté ?
Pour moi, la liberté, c'est un état d'esprit. Être libre, c'est avoir le choix. Par exemple, le choix de ses études, d'avoir des activités, comme le rugby ou la musique, de sortir ou de rester sous la couette, ou de manger ce qu'on veut. Mais si on veut être libre dans nos choix, il faut réussir à se détacher de notre entourage. Au début de l'année, j'ai voulu partir à l'étranger pour poursuivre mes études, mais un certain attachement a fait que je suis restée à Montpellier pour finir mon BTS. Je ne regrette pas mon choix, mais s'il n'y avait pas eu cet attachement, je serais en Allemagne aujourd'hui. Juste pour dire qu'on est complètement libre lorsqu'on n'a rien à perdre. Cette liberté totale, sans attache, ça fait rêver, ça nous tient motivés. Mais en même temps, si on était sans attache, ça serait triste. L'ouverture aux autres enrichit nos idées et ils peuvent nous aider dans nos choix.
Merci Yann.
Allez, pour finir cette émission
en beauté,
on vous propose de découvrir
notre version du fameux
de Paul Éluard,
Liberté.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige,
j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou cendre,
j'écris ton nom.
Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois,
j'écris ton nom.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres,
j'écris ton nom.
Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique,
j'écris ton nom.
Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite,
j'écris ton nom.
Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui,
j'écris ton nom.
Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Et voilà, notre émission touche à sa fin.
Et on espère que vous avez quand même apprécié passer ce moment avec nous. Hein.
Et encore merci à Jules Pantier d'avoir pris la liberté de répondre à nos questions. Et on rappelle le point à Sorams et au cinéma Utopia et le Diagonal.
Un grand merci à Vincent et Pierre, nos animateurs.
Ouais, mais il faut surtout pas oublier Sandro, Benjamin, Guillaume, Adrien, Anne et Silvio pour la réalisation de cette émission.
Mais aussi Élise, Tilia, Madame Dulce pour l'organisation de cette journée.
Et à la maison des...
Et encore un grand merci à Élise et Colline de Wakadi.
Wakadi, ça veut dire...
On a quelque chose à dire.
Au revoir. Allez, ciao.
Et la voie est libre.
Libre comme l'air.
Liberté conditionnelle.
Liberté au conditionnel.
Vous n'aurez pas ma liberté de penser.
Libre office ou libre service.
Le libre, le libre, le libre arbitre.
Bon allez, entrez libre.
On est en roue libre.
Il est interdit d'interdire.
Il est interdit d'interdire.
Il est interdit. Il est interdit.
Il est interdit d'interdire.
Il est interdit d'interdire.
Liberté.
Libertad.
Freiheit.